7h25 minutes. On a vu que les cliniques qui ont été créées pour permettre le dépistage sont fortement fréquentées. C'est variable le temps d'attente d'un endroit à l'autre, mais au Québec, on sait qu'on dépasse maintenant les 20 000 tests par jour. Le premier ministre veut grimper ça à 30 000 tests par jour. Cependant, il y a beaucoup d'auditeurs qui se disent « Mais comment ça se fait que ça prend 5 jours, 6 jours, 7 jours avant d'obtenir le résultat? » On va en parler et aussi pas mal de sujets reliés à la COVID-19 avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, la première question, c'est qui devrait se faire tester?
Ben, écoutez, c'est sûr que si vous avez des symptômes, ça vaut la peine de vous faire tester. Si vous êtes un contact d'un cas étroit confirmé, à ce moment-là, ça vaut la peine de se faire tester. Et après ça, il faut faire des tests dans des conditions épidémiologiques. Par exemple, si vous avez une éclosion dans une école, dans un CHSLD, dans une usine. Donc après ça, c'est des gestions, je vous dirais, d'éclosion où on devrait tester le monde spontanément. Ce qu'il y a actuellement, c'est qu'on teste certains groupes trop et d'autres pas assez. D'abord, je vous dirais, nous les microbiologistes, on a fait nos doléances à de multiples reprises au niveau gouvernemental. On a par exemple divisé au niveau du gouvernement la population en quasiment 23 catégories pour les tester. Donc dépendamment si vous êtes un travailleur de la santé, une éclosion, etc. C'est compliqué à gérer et c'est pas comme ça qu'on gère habituellement des tests. Alors déjà on devrait simplifier ce genre de catégorie-là. La deuxième chose, on teste par exemple les gens dans les CHSLD, donc les employés. Je comprends qu'on a très peur des éclosions en CHSLD, c'est normal, c'est naturel après ce qui est arrivé, mais on teste les gens de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine, alors que c'est pas forcément nécessaire de tester tout le monde une fois par semaine si personne n'est malade, s'il y a zéro cas, si tout le monde est asymptomatique. Ça fait donc beaucoup de tests au niveau du système. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faudrait, je vous dirais, réarranger. C'est clair qu'il faut aussi continuer à délester au niveau du réseau encore plus de tests et à créer des points de service, que ce soit des tests mobiles, pour aller dans des endroits où on en a vraiment besoin et essayer peut-être avec d'autres catégories de professionnels d'offrir ces tests-là. Ce qui s'en vient aussi, ça c'est au niveau du gouvernement fédéral, c'est d'essayer d'avoir des tests rapides qui ont une valeur peut-être moindre que les tests normaux, mais qui sont quand même utile. Exemple, vous savez qu'il y a un test qui est faisable maintenant aux États-Unis, qui prend 5 minutes, qui prend à peu près une dizaine de minutes, qui coûte 5 $, et qui est un test très facile à faire, un peu comme un test de grossesse. Donc, à la limite, les tests comme ça pourraient être faits dans les pharmacies, pourraient être faits dans d'autres endroits. Il y a des limites à ces tests-là, mais ça décongestionnerait le système actuel, qui, à un moment donné, on peut faire beaucoup de tests. Mais il y a aussi un autre problème, qui n'est pas le problème des laboratoires, mais qui est le problème du après, c'est qu'une fois que le test est fait, que le résultat est envoyé à la santé publique, c'est tout le suivi de ces tests-là. Et puis, vous avez vu aussi les journaux relater toutes les complications dans certains endroits au Québec, où lorsque vous vouliez aller chercher votre résultat, ça prenait un site web avec 85 lettres, etc. Donc, il y a des problèmes après ça aussi au niveau de l'informatique et de l'accessibilité des patients à aller chercher leurs résultats.
Par exemple, quelqu'un qui, prenons le cas de la fin de semaine, dit « je m'en vais souper avec des amis, je veux me faire tester pour être certain que j'ai pas le virus ». Pas une bien bonne idée, ça.
Non, ça, c'est pas le genre de bonne idée qu'il faudrait avoir, parce que souvent, d'abord, même si vous faites tester, prenons cet exemple-là, et vous êtes négatif, c'est pas une garantie que vous êtes négatif, parce que souvent, les gens doivent comprendre qu'un test, c'est jamais absolu. C'est-à-dire qu'un résultat négatif, c'est jamais complètement négatif. Dans le sens, je m'explique. Si vous êtes très tôt après votre contact, supposez que moi j'ai la COVID et vous me voyez aujourd'hui, vous allez vous faire tester demain. Le risque que vous ayez rien du tout demain est très élevé, donc que vous sortiez négatif, ça risque d'être probablement le résultat que vous allez avoir. Mais ça ne veut pas dire que dans 3 jours, vous n'allez pas être positif. Donc, si vous allez manger chez vos amis lundi soir et vous dites « tiens, je vais aller me faire tester samedi parce que j'ai eu peut-être un contact vendredi », à ce moment-là, ça se peut que vous ayez un test qui est un faux négatif et c'est même à la limite relativement dangereux. On a dit aussi que si le test n'est pas bien fait, si le prélèvement n'est pas adéquat, le test peut aussi sortir négatif. Donc il y a beaucoup de contraintes qui fait que un test négatif, il faut savoir l'interpréter et le prendre dans le contexte dans lequel on l'a fait. Alors, il ne faut pas non plus utiliser les tests parce que les gens ont envie de se faire tester, parce qu'ils s'en vont à un party, puis ils disent, tiens, je veux juste m'assurer que j'ai rien.
Maintenant, quand, et je reviens au secteur scolaire, parce que encore là, il y a beaucoup de questions. Quand un enfant est testé positif dans une classe et qu'on prend les contacts immédiats de la bulle et on les place en quarantaine, donc les enfants, comment doivent se comporter les autres enfants de la famille et les parents? Est-ce qu'eux-mêmes se placent en quarantaine? Est-ce qu'ils poursuivent leurs activités?
Oui, bien écoutez, là, ça devient du cas par cas, mais en général, les contacts des contacts, on ne va pas commencer à les isoler parce que l'enfant qui a été en contact avec un cas positif, lui, il faudrait le tester. Donc, lui, il faudrait le tester parce que là, ça fait partie d'un dépistage potentiellement dans un environnement fermé d'une éclosion. Donc, si on a un cas, là, il faut tester les enfants de la classe. Et à ce moment-là, si l'enfant est négatif, bon, c'est sûr qu'on peut essayer, et c'est difficile, surtout dépendamment de l'âge des enfants, de garder une certaine distance. C'est parfois pas réaliste. Mais à ce moment-là, je pense que c'est du gros bon sens. Et les parents, je vous dirais, de cet enfant-là, s'il n'est pas malade, s'il a été testé négatif, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème, pourraient continuer à avoir leurs activités normales, je dirais. Donc, il ne faut pas non plus aller chercher les contacts des contacts. Il peut y avoir des situations au cas par cas où il y a des gens qui sont malades, qui ont des conditions, je dirais, d'immunosuppression ou qui exercent, c'est sûr, des jobs assez particulières. Hein. C'est certain que si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans le milieu de la santé et qui devait, par exemple, faire des gestes au niveau de patients, etc., et que vous avez une job à très haut risque et que vous êtes dans un contact où vous attendez un test et que ça dépend des situations particulières. Okay. Mais de façon globale, la réponse est non.
Parfait. Quand vous regardez les chiffres actuellement, quelle est la conclusion que vous tirez? Êtes-vous, inquiet de la tendance? Êtes-vous plutôt, quelqu'un qui dit « bah, c'est pas si pire que ça ». C'est quoi votre commentaire?
Bon, moi, je suis pas quelqu'un d'inquiet de nature, mais il est clair que nous dirigeons actuellement vers une seconde vague qui, à mon sens, va être difficilement évitable. On s'était déjà parlé, je vous ai dit, il va falloir regarder les premières semaines du mois d'octobre. La tendance lourde est qu'actuellement, on est entre 250 et 300 cas par jour au Québec, par rapport à, disons, 60 à 80 cas il y a 2-3 semaines. Donc, on monte. Le nombre d'hospitalisations commence tranquillement à monter. Il faut savoir que ces 300 cas vont probablement générer 300 autres cas au minimum. Donc, c'est comme une roue qui a commencé à tourner et qu'il devient difficile d'arrêter. Alors, comme on ne retournera pas pour toutes sortes de raisons et avec raison à un confinement absolu, on va continuer d'avoir un certain nombre de cas. Maintenant, c'est à nous, la population québécoise, d'écrire le prochain scénario. C'est-à-dire, on pourrait avoir, selon nos comportements, 700, 800, 900 ou 1000 cas par jour, ou on pourrait avoir 400, 500 cas par jour et éventuellement essayer de contrôler, je vous dirais, une deuxième vague qui sera plus aplatie que si on n'était pas très discipliné. Alors, comme on disait, on a une dynamique différente. La deuxième vague, ça va être la population jeune, ça va être des éclosions dans les écoles, on va les voir, on va devoir fermer les écoles, c'est quasiment certain à un moment donné. Ça va être une population de parents de ces écoliers-là, de ces jeunes-là qui va tomber malade. Et sur le nombre, certains vont devoir être hospitalisés parce que c'est la loi des chiffres. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est une augmentation du nombre de cas parmi la population plus jeune, probablement de façon plus significative d'ici 2 à 3 semaines. Et à ce moment-là, on verra dans quelle dynamique de l'épidémie on va être. Mais il va falloir qu'on écrive nous-mêmes notre propre scénario. Parce qu'on a encore, selon notre comportement, des choix à faire qui vont déterminer le nombre de cas, l'impact sur le système, puis l'impact sur notre société, sur notre vie. Est-ce qu'on va devoir reconfiner en partie certaines régions, etc. L'autre point, la grosse différence avec la première vague, c'est qu'encore une fois, alors que la première vague était surtout montréalaise et on va dire métropolitaine, cette vague-là est définitivement plus dispersée au Québec. On voit que la région de Québec est très affectée. Et moi, je parle avec mes collègues un peu partout au Québec, quasiment 3 fois par jour. Et je sais que le nombre d'hospitalisations commence à monter dans la région de Québec. Il monte aussi un peu dans la région de Montréal. Donc, c'est pas énorme, mais on voit qu'il y a une espèce de tendance lourde qui n'était pas là au milieu de l'été.
Beaucoup d'auditeurs m'écrivent en disant « Oui, mais c'est normal qu'on découvre plus de cas parce qu'on teste plus de monde. »
Alors, c'est vrai en partie, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de gens qui sont probablement positifs et qui ne veulent pas aller se faire tester parce que pas trop malades, parce que les gens, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas aller se faire tester. Ils voient les files d'attente qui sont longues. Ils se disent « ça vaut pas la peine parce que de toute façon, ça changera rien ». Il y a d'autres personnes, qui ont, lorsque les cas sont associés à des éclosions dans des bars, etc., n'ont pas forcément envie d'avoir la santé publique qui les appelle. Donc, je vous dirais qu'il y a un peu de vérité dans le fait qu'on teste beaucoup, on va avoir plus de cas, mais aussi il y a le fait qu'on ne teste pas tout le monde et il y a certainement des cas qui ne sont pas positifs par le test, mais qui sont certainement positifs dans la vraie vie et qui peuvent agir comme des contaminants. D'ailleurs, on le sait, même au niveau de la première vague, que le nombre de cas réels, c'est à peu près toutes les études qui démontrent ça, et 5 à 10 fois plus grand que ce qu'on voit dans les tests confirmés. Donc quand on dit qu'au Québec, on a peut-être eu, on va dire, un chiffre rond, 70 000 cas, écoutez, on a peut-être 5 à 10 fois plus de cas en réalité qui ont déjà fait la COVID au Québec. Donc on pourrait dire qu'il y a peut-être 350 000, 400 000, peut-être jusqu'à 700 000 personnes qui ont déjà eu la COVID au Québec. Mais si on regarde ça, en regard de la population du Québec, c'est même pas 10% de la population, sur 8,4 millions. Donc, pratico-pratique, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup en termes de nombre global.
Vous parliez tantôt des patients hospitalisés. Vous notez qu'ils sont un peu plus nombreux. Je regardais les taux d'occupation dans les différentes salles d'urgence de Montréal. Dans beaucoup d'endroits, on est dans 100%, 110, 115, 120. Il y a une pression là, qui s'exerce sur le réseau.
Alors, tout à fait. Vous le savez, c'est l'automne, la pression sur les urgences monte toujours à l'automne, c'est normal, ça fait partie du cycle normal des choses. Il y a aussi une saison respiratoire qui apparaît, même si elle risque d'être un peu plus petite que la normale, c'est-à-dire il y a d'autres virus qui sont en circulation. L'influenza, la grippe n'est pas encore là, mais l'importance est extrême d'aller se faire vacciner quand ça va être disponible. Vous savez qu'au Québec, chaque année, quand l'influenza arrive, les urgences débordent encore plus. Et là, si on commence à avoir une vague de COVID qui se rajoute à ça, c'est sûr que le travail va être complexe et difficile, avec un réseau qui n'a probablement pas la profondeur actuellement d'absorber tous ces chocs-là. Surtout, vous voyez ce qui se passe en termes de main-d'œuvre, etc., là, de disponibilité d'infirmières, qui sont la clé en partie du système. Alors, tout ça mis ensemble, c'est sûr que les urgences risquent de connaître un automne et un hiver compliqués.
Merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, Dr. Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses, qui travaille à l'Hôpital général juif de Montréal. 7h38.